VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Bangui, bienvenue à notre journal. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre l'Iran suite au tir de missiles balistiques que la République islamique avait effectué dimanche. Un tir considéré par Washington comme une violation des sanctions mises en place par l'ONU contre Téhéran. 13 hauts responsables iraniens et une douzaine de compagnies, dont certaines ont leur siège en Chine ou ailleurs hors d'Iran, sont visées par les nouvelles sanctions annoncées aujourd'hui par le ministère américain du Trésor. Avant même l'imposition de ces sanctions supplémentaires, l'Iran avait qualifié de sans fondement et provocatrice les toutes dernières mises en garde de l'administration Trump au gouvernement iranien. Les détails avec Jacques Aristide.
La réplique est venue du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi, qualifiant les remarques faites par le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump de répétitives. Le conseiller Michael Flynn, un ancien général, avait déclaré mercredi que les États-Unis mettaient officiellement l'Iran en garde. Sur Twitter hier, le président Trump a renchéri en écrivant que l'Iran avait été formellement mis en garde pour avoir tiré un missile balistique et d'ajouter que ce pays devrait remercier l'accord désastreux que les États-Unis ont conclu avec lui sur le nucléaire. L'administration américaine a dénoncé ce qu'elle appelle le comportement déstabilisateur de l'Iran au Moyen-Orient, mais selon M. Ghassemi, qui n'a pas cité M. Trump, les remarques de M. Flint sont faites au moment où les efforts de l'Iran dans la lutte contre les groupes terroristes au Moyen-Orient sont connus de tous.
L'Afrique maintenant, Angola, le général à la retraite, João Lourenço, officiellement désigné ce vendredi pour succéder à José Eduardo dos Santos à la tête du pays, est un fidèle de la première heure du régime, dont il a gravi un à un tous les échelons politiques et militaires. Les précisions de Tatiana Mosso.
Actuel ministre de la Défense et vice-président du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, il fait partie du premier cercle du pouvoir. Sauf coup de théâtre, cet homme de 62 ans a toutes les chances de succéder au président José Eduardo dos Santos, qui a confirmé qu'il passerait la main à l'issue des élections générales d'août, après 37 ans de règne. Depuis les années 1970, le parcours de João Manuel Gonçalves Lourenço témoigne de sa loyauté sans faille au parti et à son chef. Nourri au marxisme-léninisme, les deux hommes ont étudié dans l'ex-Union soviétique qui a formé pendant la guerre froide les jeunes figures montantes de la décolonisation en Afrique. Le général Lourenço ne sort véritablement de l'ombre qu'en 2014 lorsqu'il accède au poste de ministre de la Défense. Soupçonné de vouloir passer la main à l'un de ses enfants, José Eduardo dos Santos a finalement laissé la place à João Lourenço lorsque plusieurs personnes haut placées dans le parti ont tapé du poing sur la table. Réputé modéré, João Lourenço se présente plutôt comme le candidat de la continuité.
RDC, comment combler le vide laissé par la mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi dans le pays? Le décès de l'icône de l'opposition est survenu dans une période de négociations politiques cruciales pour mettre en place la nouvelle transition. Et la journaliste belge Colette Brackman, spécialiste du pays, de la RDC, est pessimiste pour la suite.
Je crains que dans un premier temps, avant de se ressaisir, l'opposition sera affaiblie par sa disparition. Dans les rangs de l'UDPS, il y a pas mal de personnalités fortes, de gens tout à fait qualifiés, mais quelqu'un qui a le pouvoir, disons, de charismatique presque, de faire descendre la population dans la rue, de mobiliser les foules pour soutenir ses idées et en cas d'échec, par exemple, de provoquer, de susciter de grandes manifestations, quelqu'un qui a cette même aura, pour l'instant, je n'en vois pas, à part peut-être le ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, mais il n'est pas dans le pays pour l'instant et il n'est pas autorisé à y revenir.
Colette Brackman à Bruxelles. Cameroun, le président camerounais Paul Biya a déclaré ce vendredi que la guerre que son pays mène contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram ne s'achèvera que par la défaite définitive des djihadistes. Des propos tenus lors d'une cérémonie d'hommage à Yaoundé en l'honneur de 4 officiers morts dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. Au Tchad, le président Idriss Déby, lui aussi, se déclare optimiste sur l'issue du combat contre le groupe islamiste Boko Haram. Le président Déby a également parlé de son avenir politique et des perspectives d'avenir au Tchad lors de sa conférence de presse hier soir. On écoute le chef de l'État tchadien.
J'aurais bien souhaité me retirer et me reposer. Si vous, Tchadiens, vous êtes capables demain de ne pas vous affronter entre vous, de ne pas semer la haine ou de ne pas vous entretenir. La haine aujourd'hui qu'on cultive, vous croyez que c'est rassurant cela? Et je disais que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas que le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu merci, mon heure n'est pas arrivée encore. Mon acte de naissance est encore entre les mains de Dieu. Il n'a pas déchiré.
Le président tchadien Idriss Déby Itno.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, le chef d'état-major du CJA, le Congrès pour la justice, dans l'Azawad, s'est exprimé. Seule une action commune des forces en présence au Mali peut combattre le terrorisme, a affirmé le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad. Il était à Bamako dans le cadre du comité de suivi de l'accord pour la paix. Plus de détails avec notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Loin de ses bases militaires dans la région de Tombouctou et Taoudeni, le chef d'état-major du Congrès pour la justice dans l'Azawad, CJA, était à Bamako. Cela afin de négocier l'intégration de son mouvement dans les structures techniques de mise en application de l'accord d'Alger. Le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad avoue que l'application de l'accord pour la paix ne bouge pas.
Ça piétine, ça n'avance pas comme on le souhaite parce que ça traîne et plus ça traîne, il y a certains ennemis qui en profitent. Donc tellement notre problème c'est la représentativité au niveau de certaines commissions de l'accord, le CSA, la commission de défense, la sous-commission de défense et consorts, la CTS. Nous sommes une force, donc on a un problème aujourd'hui de représentativité au niveau de ces commissions parce qu'on se sent un peu délaissé et personne ne parle à notre nom.
Précédemment commandant des bases S de la CMA dans la région de Tombouctou, le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad a quitté la CMA avec ses hommes. Ils sont tous dans le CJA et possèdent deux bases militaires. Ils comptent de sécuriser certaines localités des régions de Tombouctou et Taoudeni non sans peine.
Mon poste de farache a été attaqué deux fois. En juin, il était attaqué. On a eu un mort. Les extrémistes ont eu cinq. La deuxième fois, c'est en décembre passé, où on a repoussé les ennemis. Ils ont eu deux morts. Nous, on n'a pas eu de morts, on n'a pas eu de blessés. L'explication de cette insécurité, c'est le terrain est vide. C'est un vaste terrain et les moyens manquent parce que combien de fois j'ai ramené des animaux volés, combien de fois on a saisi des motos, une centaine de motos volées qu'on a remis à Tonka et à Gunda.
Pour cet homme de terrain, la lutte contre le terrorisme doit se faire avec rigueur, en ne laissant aucun espace aux ennemis de la paix. Colonel Abbas Ag Mohamed.
C'est pas ça la solution. La solution, c'est d'occuper les terrains et de harceler les islamistes dans leur fief, en plein désert. Il faut vraiment de la rigueur.
En tout cas, le Congrès pour la justice dans l'Azawad CJA travaille avec les autorités maliennes pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les localités de Tombouctou où se trouve leur base militaire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Coupe d'Afrique des Nations de football, le Cameroun affrontera en finale l'Égypte dans la CAN après sa victoire sur le Ghana 2-0 à Franceville. Retour sur la victoire camerounaise face au Black Star ghanéen avec Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Les Lions du Cameroun ont résisté d'entrée de jeu aux assauts des Black Stars, puis ont peu à peu pris confiance et sont passés à l'offensive. Des efforts récompensés à la 71e minute par un but de Gadeux, puis celui de Bassogog aux arrêts de jeu. Hugo Bros, le sélectionneur du Cameroun, confiera plus tard qu'il croyait rêver.
On a commencé le match avec quelques occasions. Le deuxième mi-temps, à certains moments, on a un peu souffert. Mais là, naturellement, il faut un peu de chance. Et cette chance, nous avons eue au moment qu'on marque le premier but. Le deuxième but, ben, là, le Ghana a tout essayé pour égaliser. Et l'espace était là et on a marqué ce deuxième but. Encore une fois, je suis très content, surtout pour le groupe.
Pour le coach des Black Stars, Avram Grant, les Camerounais ont gagné contre le cours du match.
Nous avons tout fait pour être dans la finale.
Nous avons tout fait pour être en finale. Nous avons dominé le match en seconde période complètement, a dit le coach Avram Grant, qui a tout de même souhaité bonne chance au Cameroun. Les Lions indomptables, dont on ne vendait pas cher la peau avant cette CAN, croiseront en finale les Pharaons et un style de jeu similaire au leur, avec une solide défense et de fulgurantes contre-attaques. Timothée Donangmaï, France Lille, VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.